Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, comme d'habitude, je vous invite à prendre quelques minutes pour qu'on réfléchisse ensemble à une question. Dans chaque épisode, j'essaye de vous proposer des sujets différents à explorer. Mon but, c'est juste de partager avec vous quelques pistes de réflexion et de vous encourager à vous poser des questions en français. Aujourd'hui, on va parler des figures noires qui ont marqué l'histoire de France. Parmi ces figures, il y a des pionnières de la littérature, un esclave affranchi devenu le chef cuisinier le plus populaire de Bordeaux, une chanteuse d'opéra à la carrière internationale, un psychiatre révolutionnaire, une sénatrice courageuse, un aviateur, héros des deux guerres mondiales, et bien d'autres encore. La semaine dernière, j'ai lu un livre qui m'a inspirée, un livre qui s'appelle « Visible, figure noire de l'histoire de France ». Il se présente sous la forme d'une série de portraits illustrés. Et il nous fait découvrir les histoires d'une quarantaine de personnalités. Je vais vous lire un passage du résumé, parce que c'est un bon moyen d'entrer dans ce livre et dans le sujet important qu'il met en lumière. Alors, ces hommes et ces femmes sont noirs et ont fait l'histoire de France. Ils l'ont marqué. Et pourtant, ils ont été oubliés dans le roman national. On trouve des vedettes, des héros, des inventeurs et des champions. Par leur talent, leur parcours hors normes ou leur engagement, ils et elles ont brisé les plafonds de verre et lutté pour l'égalité et la liberté. Un plafond de verre, ça désigne, de manière imagée, une limite théorique et invisible qui empêche l'ascension sociale de certaines catégories de personnes. La question qu'on va se poser cette semaine, c'est la suivante. Pourquoi l'histoire de France fait aussi peu de place à ces figures noires? D'abord, on va s'intéresser à la démarche des auteurs, ce qui leur a donné envie de créer ce livre. Ensuite, une question encore plus importante, c'est qui sont ces figures noires? Pour y répondre, on va s'arrêter sur quelques portraits. Et pour finir, on va parler d'invisibilisation et de l'importance de donner un visage à ces personnalités qui ont marqué l'histoire de France. Dans le dernier épisode de Chère Émilie, c'est comme un mini-podcast que je partage dans la communauté des auditeurs et des auditrices de Passerelle sur Patreon. En plus des transcriptions des épisodes et des rencontres sur Zoom, une fois par mois, je réponds à une question posée par un ou une membre de la communauté. Et au mois de mars, on m'a demandé de parler de l'exception culturelle française. C'est cette idée que la culture a un statut particulier, un statut exceptionnel en France. On m'a aussi demandé ce que j'aimais le plus en France, dans la culture française. C'est une vaste question. Et aujourd'hui, en lisant ce livre, en lisant « Visible », ça m'a donné envie de m'interroger sur quelque chose que j'aimais moins. J'ai pris conscience de quelque chose que je savais déjà, mais j'ai à nouveau réalisé à quel point l'histoire de France que j'avais apprise à l'école, c'était une histoire blanche. Les figures noires étaient absentes du récit national. Et donc, pour commencer, je voulais qu'on s'intéresse à la démarche des auteurs Benkadi Emmanuelier et Léo Klockner, et à ce qui leur a donné envie de créer ce livre. C'est justement en constatant l'invisibilisation des figures noires qu'ils se sont lancés dans ce projet. En France, on a beaucoup de références afro-américaines. On connaît toutes et tous Martin Luther King ou Rosa Parks. Mais on manque un petit peu de références nationales. Parmi les Françaises et les Français, beaucoup ne connaissent pas les grands personnages noirs qui ont marqué l'histoire de ce pays. C'est pour ça que Benkadi Emmanuel Yé a choisi de faire ce livre. Pour le présenter en quelques mots, il est agent d'artiste et consultant sur les problématiques de diversité, d'inclusion et de représentation, notamment à l'Opéra de Paris. Et son travail a initié une réflexion profonde sur ces enjeux dans cette institution. Pour ce livre, il s'est allié à Léo Klöckner, qui est professeur d'histoire-géographie. Pour lui, qui est enseignant, ce projet répond à un besoin double. Un besoin de formation, dans un premier temps. Un besoin de formation des enseignants qui ne connaissent pas eux-mêmes l'histoire coloniale française. Donc, il y a d'abord une envie de combler une ignorance collective, de former les adultes. Et il y a également une envie de répondre à un désir très vif chez les adolescents et chez les plus jeunes. En tout cas, c'est quelque chose qu'il a observé chez ses élèves, puisqu'il enseigne dans un lycée où il y a très peu d'élèves blancs. Il a observé chez eux une envie d'entendre parler un petit peu d'histoire qui font écho à leur histoire. Ce livre, il a donc pour objectif de remédier à ces lacunes. Une lacune, c'est un manque de connaissances. Il a pour objectif de transformer l'image qu'on se fait de notre pays. Leur démarche, c'est de proposer d'autres modèles, de proposer une vision plus exacte, plus équitable et plus riche de l'histoire de France. Toutes ces figures, ce qu'elles ont en commun, c'est d'être perçues comme noires, parfois d'être issues de métissages différents. Le métissage, être métisse, ça veut dire venir d'un mélange de groupes ethniques différents. Elles sont perçues comme noires et, par conséquent, elles ont fait l'objet de préjugés raciaux dans une société où elles étaient dominées et minorisées. Au-delà d'une simple question de couleur de peau, ces figures incarnent une diaspora, tantôt forcée, tantôt volontaire. Dans cette phrase, j'utilise « tantôt » dans le sens de « parfois ». Cette diaspora, elle s'est étendue sur plusieurs siècles. Elle est principalement le résultat du commerce des esclaves, de la colonisation et de la ségrégation raciale. À travers tous ces portraits, ce livre nous raconte une histoire partagée entre la France, l'Afrique dite noire et les Amériques. Et si la majorité de ces figures ne sont plus de ce monde, si elles tournent notre regard vers le passé, leur destin gagne à être mieux connu, parce qu'ils continuent de faire écho dans notre monde actuel. Dans un deuxième temps, une question importante se pose. Cette question, c'est « Qui sont ces figures noires ?» On va s'arrêter sur quelques portraits. Ce livre regroupe les histoires d'une quarantaine de personnes. 42, pour être exact. Des grandes femmes et des grands hommes noirs qui ont marqué l'histoire de France depuis la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les plus jeunes d'entre eux sont nés avant 1960, une date charnière dans l'histoire des relations entre la France et ses colonies. Une date charnière, une période charnière, ça évoque une période de changement. On a déjà parlé des points communs qui rassemblent ces personnages. Mais en lisant tous ces portraits, on remarque aussi leurs différences. L'introduction du livre l'explique très bien. La variété des parcours et des identités que ces figures incarnent, ça nous rappelle que la condition de noir n'est qu'une question de perception au sein d'une société et qu'elle n'est pas l'essence d'une personne, qu'elle n'est pas une catégorie lisse et uniforme. Une fois que j'ai refermé ce livre, après l'avoir lu, ça a confirmé l'idée que j'avais envie de partager cette lecture avec vous. Et ça n'a pas été facile de choisir une figure, un portrait à vous présenter. J'ai croisé des noms que je connaissais déjà, comme Alexandre Dumas. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, à vous aussi. C'est lui qui a écrit Les Trois Mousquetaires. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il est descendant d'esclaves. J'ai aussi croisé Joséphine Baker. Elle, je ne vous la présente pas, puisque je vous ai déjà raconté son histoire dans un épisode précédent du podcast. Mais pour la plupart de ces figures, c'est la première fois que j'entendais parler d'elles et de comment elles ont marqué l'histoire de France. J'ai choisi de vous parler d'une figure plus contemporaine, une femme qui s'appelle Rose Dieng Kuntz. Son nom ne vous dit probablement rien. Elle était informaticienne et spécialiste de l'intelligence artificielle. Sans elle, les moteurs de recherche ne seraient sans doute pas aussi efficaces. Et pourtant, elle reste peu connue du grand public, alors qu'elle a permis de développer des outils qu'on utilise tous les jours sur nos smartphones, nos tablettes ou nos ordinateurs. Rose naît en 1956 à Dakar, seulement quelques années avant que le Sénégal devienne indépendant de la France. Elle grandit dans une famille nombreuse et reçoit une éducation très stricte. Pour son père, il n'est pas question de négliger l'école, parce que c'est ce qui lui a permis de sortir de la pauvreté. Rose est une bosseuse et elle décroche son bac avec mention très bien et les félicitations du jury. Alors, je précise que être bosseur ou bosseuse, ça veut dire travailler dur. Et décrocher, ça signifie obtenir dans ce contexte. Rose se sent investie d'une mission, réussir pour son pays nouvellement indépendant. Elle obtient une bourse et part faire ses études à Paris. Rose est la première femme africaine à intégrer l'école polytechnique, une école d'ingénieurs d'excellence. Alors que, à cette époque, le concours pour y entrer est ouvert aux femmes depuis seulement 5 ans. Son parcours continue et elle va participer à la création d'outils qui permettent de retrouver des informations pertinentes dans des bases de données immenses. En explorant son goût pour les mathématiques et les sciences du langage, elle contribue à faire de l'informatique un support du raisonnement humain. Rose devient une des pionnières de l'intelligence artificielle. Elle croit dans le pouvoir de l'informatique et d'Internet pour renforcer le partage et l'accès aux connaissances dans le monde entier. Sa contribution à l'élaboration d'outils collaboratifs est considérable. C'est grâce à elle qu'on peut travailler ensemble en ligne. Dans le livre dont je vous parle aujourd'hui, on retrouve une quarantaine de portraits. Ce livre, il est comme une ouverture, une invitation à explorer ces histoires. On peut espérer que c'est le premier d'une série de livres qui participeront à rendre visibles davantage de figures, à célébrer davantage de noms et à honorer davantage de mémoires. Avec les quelques minutes qui nous restent, on va parler d'invisibilisation et de l'importance de donner un visage à ces personnalités qui ont marqué l'histoire de France. Dans l'épisode de cette semaine, la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'histoire de France fait aussi peu de place à ces figures noires. C'est certainement parce que l'histoire des personnes noires en France, elle est très liée à la période de l'esclavage et de la colonisation. En France, on est dans un pays où c'est encore très tabou de parler de ces sujets-là. Si on en parle, on parle généralement de la faim. On parle de l'abolition de l'esclavage et de la décolonisation, mais pas forcément du début de ce processus, et encore moins des personnalités qui ont vécu pendant ces grands moments-là, des personnalités qui ont lutté, qui ont résisté, qui se sont battues contre ça. Cette histoire, l'histoire qui est mise en lumière dans ce livre, elle vient contredire le mythe universaliste républicain. Cette idée d'universalisme reste très forte en France. Et donc, évidemment, c'est difficile de la raconter, cette histoire. C'est aussi pour ça qu'elle est quasiment absente des programmes scolaires. Puisque l'école, c'est précisément un espace où le mythe universaliste se construit, se diffuse, s'affirme. Et pourtant, quand on lit ce livre, quand on explore ces histoires, on comprend que ces personnes, par leur lutte, elles sont universalistes, elles aussi. Une troisième personne a participé à la création de ce livre. Je ne l'ai pas encore nommée. Elle s'appelle Aurélia Durand. C'est elle qui a fait toutes les illustrations. Ce livre, il est illustré pour plusieurs raisons. D'abord, pour le rendre accessible au plus grand nombre. Parce que tous ces parcours, toutes ces histoires, parce que cette manière de raconter l'histoire de France, elle devrait être connue par un public le plus large possible. Lire 200 pages de texte, ça peut rebuter les lecteurs. Autrement dit, la difficulté peut les décourager. Illustrer les portraits, ça rend déjà ce livre plus accessible. Et puis, l'autre démarche, elle est liée à cette question de visibilité. Raconter leur histoire, c'est une chose, mais si, en plus, on arrive à faire en sorte que les lecteurs puissent donner un visage à ces personnes, c'est encore plus utile dans cette idée de visibilisation. Et donc, le choix d'illustrer ce livre, c'est aussi un peu pour faire renaître, ou en tout cas pour reconnecter ces personnalités avec le grand public. À travers le dessin, Aurélia Durand nous montre cette richesse des couleurs de peau, des types de cheveux. Au-delà du point commun entre ces personnes, c'est-à-dire être des figures noires de l'histoire de France, ce livre est traversé par une idée, cette idée de rendre visibles des parcours variés et des identités diverses. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir ce livre. C'est un livre qui fait beaucoup de bien, parce qu'il permet de bousculer un peu l'imaginaire collectif et les certitudes qu'on peut avoir sur nos connaissances, sur l'histoire de France et celle d'autres pays. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre la communauté du podcast sur Patreon. C'est un espace d'échange où je partage des ressources et les transcriptions des épisodes. Et c'est aussi un espace où j'organise des ateliers de conversation. Pour soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre une note sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire pour partager vos réflexions avec moi. En attendant, je vous dis merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. À très vite !